pour oublier le passé et le futur. Voici le Grand Family Radio Show. Pour celle qui a une déchirure au cœur, voici Grand Family Radio Show. Range-toi dans ma fourrure. Écoute le Grand Family Radio Show. L'azur, 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 l'azur. Voici le Grand Family Radio Show.
Compris, c'est Grand Pas Mini Radio Show, on va parler Cinoche. Et notre invité ne va pas au ciné, ni il ne va pas non plus dans des concerts, il a choisi de faire les deux. C'est Stéphane Le Rouge, bonjour à toi.
Bonjour.
Alors, habitué à parler
Non, je suis très timide, mais je me soigne.
Alors si vous ne savez pas qui c'est nos deux récurrents DJ Alfred Shock Magazine et Mister Aubrin.
Bonsoir, bonsoir.
Qui va nous présenter notre invité, superstar vedette américaine.
Ouais. Vedette dans mon immeuble. Ouais.
Non, Stéphane Le Rouge, oui, tu es une vedette pour ceux qui aiment la musique de film et ceux qui, comme moi, dans les années 70, étaient fans de... 1970, et on regardait les Louis de Funès, on regardait les Pierre Richard, et on était comme des malades dans les cours d'école après à danser et à siffloter les thèmes. Après, on n'arrivait pas à trouver les musiques, donc on les enregistrait en cassette audio. Une fois, je t'ai entendu un de tes interviews chez l'émission à Radio Nova où tu parlais de tes débuts avec tes radiocassettes. Ouais. Tu étais chez Nicolas Saada, c'est ça? Et on a tous fait ça, et on se rebalançait les cassettes audio et on écoutait. Voilà, donc, et puis après, dans les années 90, on a vu apparaître même, Playtime.
Oui, c'est ça.
Ta collection, où il y avait des inédits. Donc là, on trouvait toutes les musiques pour Belmondo, qui étaient des merveilles. Et puis, il y a eu Deroubaix, Deroubaix qui est arrivé sur le marché. Les gens, que les collectionneurs de vinyle connaissaient Deroubaix. Et puis, simplement avec les oreilles. Ouais. Et puis toi, tu as fait, t'as divulgué et tu as fait connaître au grand public.
Ouais, c'est horrible. J'ai l'impression d'être
ce grand artiste,
d'entendre entre ici Jean Moulin, sa
c'est
vie, son œuvre, son influence. J'ai l'impression que je suis mort ce matin, personne ne me l'a dit. C'est horrible.
Non, tu es bien vivant.
Oui, je bouge encore. Non, mais c'est un travail, c'est comme une espèce de passion, de prolongement de l'enfance et d'une passion d'enfance, c'est-à-dire l'idée de découvrir des musiques par le cinéma ou la télévision, de commencer en les enregistrant sur des cassettes quand on a 8-10 ans, ensuite de chercher les vinyles, et une fois qu'on a trouvé les vinyles, de se dire, mais les vinyles ont existé à une époque, il y a des années, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas écouter ces musiques sur un nouveau support, qui est le CD, quoi. Et donc c'est l'idée de finalement de bousculer les éditeurs, d'aller à la rencontre des compositeurs, de trouver des maisons de disques, et puis en fait de faire vivre cette mémoire musicale du cinéma.
Bah oui.
Et est-ce que il y a beaucoup d'éditions autour de la musique de film, mais à une époque peut-être que ça intéressait beaucoup moins de gens. Maintenant c'est devenu quelque chose de normal, on achète une musique de film comme on achète un album d'un rappeur ou de je sais pas quel chanteur pop. Donc c'est quelque chose de commun, ça n'a pas toujours été le cas, non?
C'était plus dur au début, évidemment, parce que c'était surtout sur des compositeurs assez comme ça, assez pointus et moi je suis ravi par exemple puisque vous parliez les uns les autres de Deroubaix, mais c'est quand même un paradoxe de voir que Deroubaix est aujourd'hui plus connu quasiment, on est en 2010 dans quelques jours, qu'au début des années 90 où finalement il était encore un peu dans l'ombre, connu par une poignée de spécialistes. Et je me dis, si on a réussi comme ça à faire en sorte que les nouvelles générations connaissent son nom et sa musique, son écriture, et même se l'approprient pour des relectures, des remixes, c'est un truc de partage.
Et aussi, c'est quelqu'un qui avait beaucoup été samplé Deroubaix par des rappeurs, notamment des Américains. C'était aussi parce que c'était des collectionneurs de vinyle qui cherchaient des choses pointues et rares pour avoir des samples que tout le monde n'utilisait pas. Donc, ils allaient chercher des disques de Deroubaix, quoi.
Pardon, je suis désolé, mais
il n'y a pas de problème.
Les Japonais étaient très très fans. Il y a des blogs sur Deroubaix que en vinyle. Depuis très longtemps, les Japonais collectionnent.
Mais je pensais aussi à ce compositeur qui était un peu une espèce de fils caché entre Tournesol et ZZ Top, qui est Antoine Duhamel avec sa barbe de Duhamel.
Ça, c'est fou.
Et Duhamel, c'est vrai que voir Duhamel par exemple samplé par Wu-Tang Clan pour la musique de Belphégor. la série télé hein, des années 60. Quand j'ai apporté le disque qui s'appelle Gravel Pit à Duhamel, je pense que d'abord il n'avait jamais entendu parler du Wu-Tang Clan.
Qui est un excellent morceau de rap
oui.
sur l'album W du Wu-Tang Clan, souvenez-vous.
Oh, c'était incroyable, je vois Duhamel, mais qu'est-ce que c'est que ce truc. J'ai complètement surpris, j'ai vu sa barbe se hérisser d'horreur, mais en même temps savoir qu'il y a un groupe, comment dire, qui de l'autre côté de l'Atlantique aille chercher la musique d'une série télé de Claude Barma de 65 produite par l'ORTF, en même temps ça l'a touché quoi, bien sûr.
Alors vous l'aurez compris, nous sommes avec Stéphane Le Rouge et on sur Radio Campus 93.9 bien sûr, et nous allons puiser, fouiller, renverser tous ces disques pour un peu découvrir plein de choses, et on est carrément dans l'actualité parce qu'on va parler de Roman Polanski. Alors peut-être qu'au moment où cette émission sera diffusée, il sera libéré de cette prison suisse. Mais maintenant, alors deux extraits évidemment ultra rares, introuvables, amenés par notre invité Stéphane Le Rouge. Alors qu'est-ce que tu nous as amené comme merveille, qu'est-ce que c'est?
Donc écoutez, d'abord il y a vous savez, en fait Polanski a eu plusieurs disons grands compositeurs qui sont dans l'ordre chronologique vraiment les compositeurs qui ont fait plusieurs films avec lui, qui ont eu une collaboration un peu développée, et c'est-à-dire Christophe Komeda, ami de jeunesse à Varsovie,
polonais comme lui,
mort tragiquement, enfin mort en 69 disons un an après le bébé de Rosemary. Donc je vous ai apporté le sublime générique, une espèce de trois temps hypnotique générique du bal des vents. Et ensuite, l'un des compositeurs vraiment qui s'est considéré, d'ailleurs à juste titre, comme l'un des successeurs de Komeda auprès de Polanski, Philippe Sard, trois films avec Polanski, et le premier étant peut-être ayant donné lieu à l'une des plus belles partitions de Sard, qui est Le Locataire, avec une espèce de mécano orchestral sublime organisé par Sard, avec du glace harmonica, vous savez, ces vibrations de verre.
On en a parlé il y a quelques semaines dans l'émission.
Ah ouais. Et comme le personnage joué par Polanski lui-même dans le film se suicide en passant à travers une verrière, les vibrations du glace harmonica étaient comme une espèce de prémonition de sa propre mort. Ouais. Et puis un très beau thème, vous allez voir dans Le Locataire, joué à la clarinette, parce que la clarinette est un instrument un peu ambivalent, ni homme ni femme, c'est l'histoire d'un homme qui devient une femme, parce qu'il prend l'identité de la locataire précédente, qui s'était elle-même suicidée, et un instrument aussi qui illustre la culture, enfin le passé du personnage polonais, émigré, juif, et donc il y a toute la nostalgie du personnage joué par Polanski dans ce thème, et dans la clarinette soliste d'Hubert Rostin dans le thème du Locataire.
Mais d'abord, c'est Christophe Komeda qui est amené sur un disque très rare, polonais, photocopié.
Moi j'ai voulu insister sur Komeda parce qu'effectivement c'est un compositeur que moi je connais un petit peu, parce que j'ai un copain qui m'avait passé une compilation faite à partir d'une édition polonaise de l'intégrale de Komeda, mais c'est pas du tout réédité en France, et il a fait quand même des films très connus avec Polanski, notamment Le Bal des Vampires, c'est pas un film de moindre importance, Rosemary's Baby, Cul-de-sac, enfin tous les premiers films de Polanski qui sont des grands films. Et alors pourquoi ce compositeur reste si méconnu?
Peut-être parce que c'est un peu comme de Roubaix, ce sont finalement, ou Michel Magne, ce sont des trajectoires brisées,
et de Roubaix, il n'a pas vraiment fait de très grands films, contrairement
à Komeda
Polanski, c'est un metteur en scène dont on parle beaucoup encore pour des mauvaises raisons, mais
Ouais, de Roubaix travaillait avec des petits metteurs en scène.
C'est vrai, c'est pas vrai, parce que finalement, le Samouraï de Melville est quand même un chef-d'œuvre.
C'est vrai.
Objectif. Et Les Aventuriers est un film où Les Grandes Gueules sont des films qui ont
Robert
beaucoup
Enrico,
de charme, de Robert Enrico.
Ouais.
Évidemment, on ne parle pas de Jean Renoir ou de Kubrick, mais ça reste quand même, je vous assure, revoyez Les Aventuriers aujourd'hui, c'est un film qui tient vraiment la route avec le charme de John Ashimkus.
Qui est magnifique.
Mais c'est vrai que Komeda, c'est encore un territoire à défricher, et c'est à explorer, et j'espère qu'on va tous partager avoir le même plaisir à la réécoute du thème du bal des vampires.
Et c'est pas plus tard que maintenant. cher Roman, Romain Polanski, j'espère que tes compagnons de cellule n'ont vu que la bonne partie de ta filmographie, comme ça ils ne se vengeront pas sur toi. C'était une très belle séquence Roman Polanski sur Radio Campus Paris 93.9. On est avec Stéphane Le Rouge, spécialiste mondial international galactique de la musique de films français.
Les gens viennent de d'autres planètes pour avoir ses conseils.
Oui, notamment.
Pour écouter du Doruga inédit.
Ils viennent à la fois de Caracas, de Maubeuge, de partout.
Toutes les adresses se donnent rendez-vous avec Stéphane Le Rouge. Maintenant, on va parler un peu pour les enfants. On va parler samba. On va parler Brésil avec la première pulsion érotique de ma vie. Oui. C'était l'île du plaisir dans les 12 travaux d'Astérix, évidemment. Oui. Souvenez-vous, le but de cette épreuve était de traverser un grand lac. Mais malheureusement, au milieu du lac, il y avait une île avec plein de femmes à poil, notamment la grande prêtresse de l'île du plaisir.
À poil, pas au début.
À poil, pas au début. Oui. Et ils sont forcément bloqués par le charme des prêtresses de l'île du plaisir qui, à un moment, dansent. Dans les allées au rythme de cette samba. Alors, et c'est signé
Gérard Calvi.
Bien sûr.
Évidemment.
On peut se poser la question, pourquoi manifester l'érotisme par de la samba, quoi ?
Ben oui, c'est vrai. Non, mais c'est les rythmes brésiliens. Et c'était, je crois, pour tout le monde. Je connais bien Gérard Calvi. C'est vrai qu'il a eu la chance de travailler directement avec Uderzo, Goscinny, et d'être partie prenante dans cette grande aventure des 12 travaux d'Astérix, pour lequel, vous savez, Goscinny avait créé son propre studio, qui s'appelait Studio Idéfix, avec lesquels ils avaient produit. Il a eu le temps de voir naître deux dessins animés, qui étaient les 12 travaux, et ensuite La Balade des Dalton. Et voilà, Calvi racontait toujours qu'il avait un souvenir ému de ce jour où des danseurs brésiliens de samba sont venus dans les bureaux du studio Idéfix à Neuilly, dans un petit bureau, et on les a filmés en train de danser pour qu'ensuite les animateurs puissent bien reproduire les mouvements de samba sur la chorégraphie, comment dire, à la fois des deux Gaulois, mais aussi surtout de toutes les filles, de toutes les tentatrices
un peu l'île de la tentation
avant l'heure. Oui, je pense que Goscinny était très très exigeant sur la qualité du dessin animé parce qu'il avait eu des mauvaises expériences, notamment avec un studio belge qui s'appelait Belle Vision
sur le premier Astérix.
Voilà, et donc il voulait créer son propre studio pour tout maîtriser lui-même. Et il avait vécu aux États-Unis, puis il connaissait les dessins animés de Walt Disney, dont il était fan, et il voulait cette même qualité, quoi.
Bien sûr. Et c'est vrai que il y a toute la luxuriance de l'écriture de Gérard Calvi, qui représente d'ailleurs vraiment Calvi représente vraiment la quintessence d'une forme d'humour à la française, burlesque, qui colle très bien à l'univers du dessin animé, avec des effets, vous savez,
avec des trompettes, des
poires. Ouais. Et voilà. Et curieusement, les 12 travaux d'Astérix en 76 marquent à la fois peut-être le sommet de la carrière de Calvi et en même temps, finalement, ça quasiment son terme, parce qu'ensuite, il ne fera qu'un seul long métrage par la suite, des années plus tard, en 88. Et quand Gaumont ressuscitera Astérix sous forme à travers de nouveaux dessins animés dans les années 80, Gérard Calvi sera remplacé par un jeune compositeur roumain au talent prometteur qui s'appelle Vladimir Cosma.
Ah, superbe.
D'accord. Gérard Calvi avait quand même fait la musique pour un film obscur qui s'appelait L'œuf, avec Guy Bedos, qui après est devenu un thème extraordinaire pour Monsieur Cinéma.
Qui est devenu l'indicatif de Monsieur Cinéma dans les années 70.
Parce que c'est la bande des Branquignols, il faut le dire, ça. Branquignol, Robert Derry, Colette Brosset.
Évidemment.
Et Pierre Tchernia est dans la bande, et voilà. Et puis Tchernia a fait des films un peu obscurs, Les Gaspard et autres.
Il y a comme un chef-d'œuvre, le Viager, qui est un chef-d'œuvre d'humour noir, bien sûr.
Oui, parce que dans cette bande, il y a Michel Serrault qui fait partie de cette bande. Et voilà. Mais Calvi, faut absolument sortir l'intégrale Calvi.
Une intégrale Calvi, c'est un projet. Je prends note aujourd'hui, je suis comme le Père Noël, je reçois les commandes de tout le monde. Une intégrale Gérard Calvi, c'est parti.
Il ne te reste plus que quelques semaines.
Hein. Exactement. Un mois pour concevoir une intégrale Gérard Calvi, en voiture Simone.
Au boulot.
Et on va beaucoup parler Pologne aujourd'hui, parce qu'on passe évidemment juste après une petite séquence avec que du dessin animé, le générique du Roi et l'Oiseau. Par Wojciech Kilar.
Ouais. Alors, pardon, on dit Wojciech.
Ah, Wojciech, pardon.
Wojciech, oui.
Non, autant pour moi.
Soyons précis, hein. Corrige immédiatement.
Et donc, il y a eu une sortie DVD du Roi et l'Oiseau, là, il me semble, il y a 4-5 ans. Et dans les bonus du DVD, il y a toute une partie sur Wojciech Wojciech, où il explique que donc il compose ce thème au piano, le superbe thème du Roi et l'Oiseau. Et en fait, pendant tout le film, toutes les musiques sont un dérivé du thème principal qui est au piano, qui est superbe, évidemment. Mmh.
C'est un thème très slave, avec beaucoup. C'est vraiment une espèce de lyrisme triste à l'infini qui est magnifique. Et voilà. Et puis, pour moi, c'est vraiment un souvenir d'une rencontre un peu impromptue. Je ne sais même pas vous dire comment j'ai rencontré Killard, mais parce que simplement, il l'a fait dans les années 90, entre deux Polanski, puisqu'il a aussi, après la rupture entre Polanski et Sard, il a aussi fait partie des successeurs de Komeda auprès de Polanski.
Vraiment le crew polonais, quoi.
Et c'est drôle. En fait, Polanski était quand même venu chercher Komeda était venu chercher Killard, qu'il connaissait depuis des années, à partir du moment où Killard avait fait en 92 la musique du Dracula de Coppola. Et dans les années 90, en 96 pour être précis, Killard est arrivé, son nom a surgi de façon complètement inattendue, presque surprenante, incongrue, au générique d'un film français qui s'intitule Fantôme avec chauffeur, film de Gérard Houry avec Gérard Jugnot, Philippe Noiret.
Mince.
Et voilà, et comme ça j'ai rencontré Killard, donc j'ai édité la musique de ce film d'Houry, on a parlé et il m'a dit oui, je suis très mécontent, déçu, frustré que la musique des Rois Lazo pas édité du tout, et comprends pas, j'exagère parce qu'il parle pas, il a un accent polonais, mais il a fait ses études au Conservatoire de Paris, ouais.
Tout de même
et voilà, et donc je lui dis mais Wojciech, on va faire ça, on va s'y coller, et ensemble on est allé voir la femme de Paul Grimaud dans l'atelier historique de Paul Grimaud. Wow. Le Roi et l'Oiseau avait été
dessiné dans le 13e arrondissement, il me semble,
rue Bobillot, ouais. Et, atelier fermé depuis malheureusement, et on a retrouvé les masters, on les a restaurés, et voilà comment a pu ressusciter la musique du Roi et l'Oiseau.
Magnifique.
Alors c'est magnifique. Et je suis très ému de passer la musique du Roi et l'Oiseau parce que quand j'étais un jeune enfant...
C'était ta deuxième expérience érotique.
C'était... je ne pouvais m'endormir sans regarder la cassette du Roi et l'Oiseau.
Ben oui.
Que j'avais enregistré sur la 5. Ouais. Incroyable.
Avec le logo. Hein.
Le gros logo.
Hein. Oui.
Thank you.
Non, non, pas de blagues sur le roi et l'oiseau, parce que c'est trop beau. C'est juste trop beau.
Mais qui a envie de faire de blagues, là?
Qui a envie de faire de blagues sur le roi et l'oiseau?
Non, personne.
Fini. Le mauvais esprit, c'est juste trop beau, j'ai envie de chialer. Bon, vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9, dans Grand Pas Mini Radio Show, avec notre invité Stéphane Le Rouge, qui a du mal à choisir entre les yeux et les oreilles. Compliqué quand on est spécialiste de la musique de film. Et tout de suite, on va faire une petite séquence sur François de Roubaix. Alors, mes chers amis, Mister Aubrin, DJ Fresh Coffee Magazine, est-ce qu'on peut revenir la naissance? A-t-il eu des bonnes notes à l'école? Comment ça se passe?
C'est Stéphane le spécialiste.
Non, arrêtez, allez-y.
C'est un peu un chouchou quand même.
Ouais, c'est le compositeur que je préfère personnellement dans français. Et j'ai découvert ça, il y a quelques années quand ça a été un peu réédité en CD. Et bah, je me suis pris une claque avec De Roubaix, quoi.
Comme gros disque de techno hardcore, quoi. J'ai vraiment pris une grosse claque, quoi.
Ouais, mais ce que j'aime bien dans De Roubaix, c'est que c'est un type qui a de l'audace, qui ose plein de trucs, qui essaye plein de formations différentes, ça part un peu dans tous les sens. En même temps, c'est toujours très tenu, on reconnaît toujours son style. Enfin, il y a une vraie personnalité très très marquante, quoi. Et voilà, donc forcément, c'est incontournable en tout cas. Mais personne ne dira le contraire ici.
On aimerait bien, oui, non, bien sûr. Mais il y a quand même, on ressent des influences Ennio Morricone, qui est quand même un grand maître pour De Roubaix. Et je pense que les débuts de De Roubaix, il y a du son, les bossa d'Ennio Morricone des années 60 pour des nanars italiens, des expériences Morricone, il y a de la musique contemporaine chez Morricone.
Il y a une grande différence entre les deux sur le fait que Morricone est quelqu'un qui a une formation plus que classique, qui a passé des années comme ça à apprendre techniquement l'écriture de la musique, alors que De Roubaix est un autodidacte absolu.
Mais justement, il a besoin de cette oreille et d'avoir
justement,
des influences.
Justement, moi je sens chez De Roubaix une liberté qu'il n'y a pas chez Morricone, parce qu'il est tenu par un certain classicisme, même si ça l'empêche pas d'être génial. Mais chez De Roubaix, il y a plus de fantaisie, plus de simplicité.
Oui, il est moins sérieux, quoi.
Il n'a pas ce côté sérieux.
C'est l'époque aussi, les années 70.
Ne vous engueulez pas.
On lui fait des commandes. On lui fait des commandes et chapeau. Moi, je sais que quand j'ai découvert chapeau, j'avais 5 ans. C'est une claque. C'est énorme. Et on a ça dans la tête. C'est incroyable. Mais Morricone, il faut le replacer aussi dans les années 60. Il fait des expériences incroyables pour des films italiens où il sort des guitares électriques, il sort des sons, des moogs. Des bossa,
mais il l'homme orchestre aussi.
C'est pop. Il a fait des trucs pop. C'est dans l'esprit du temps.
Je pense que quand Morricone écrit orchestre, notamment écrit harmoniquement de certaines façons, c'est quelque chose de voulu, de conscient, d'assumé, de très réfléchi. Alors que chez De Roubaix, c'est purement instinctif, comment dire, et ça sort comme ça. Il réfléchit pas à ce qu'il fait. Il pense que c'est la meilleure solution d'écrire parce que c'est ce qu'il a en lui. Et je pense que De Roubaix fait des choses aussi parce qu'il n'a pas il y a une espèce d'audace instinctive. Voilà, je pense que quand par exemple il fait une modulation, c'est-à-dire quand on passe d'une tonalité à une autre, il fait des modulations a priori interdites au conservatoire. On vous apprend qu'on n'a pas le droit de moduler comme ça, parce que c'est une faute vraiment en termes de tonalité. Bah, De Roubaix, lui, il l'a fait, il s'en fout. Et c'est vrai que souvent dans ces musiques, vous savez, il y a une partie, il y a une construction ABA avec le thème, voilà, il y a une partie centrale qui est le B, et souvent quand on passe du A au B, brusquement, la modulation fait qu'on a l'impression que les fenêtres s'ouvrent, l'écran s'agrandit, le soleil arrive, ça crée une espèce d'impulsion dans l'écriture qui est absolument assez sublime, je trouve.
Mais quand il fait venir des instruments étranges de Roubaix ou passer des bandes à l'envers, Ennio Morricone, il faisait aboyer des coyotes pour Sergio Leone des choses comme ça. Donc il y a quand même quelque chose d'improvisation ou de laboratoire.
Je pense que à mon avis les influences de Roubaix, elles se limitent pas à Morricone, sont multiculturelles. C'est quelqu'un à mon avis qui devait avoir une certaine discothèque où il devait y avoir un peu tout et n'importe quoi.
Surtout c'est un enfant de son temps, c'est-à-dire que par exemple De Roubaix, il disait que ce qu'on appelait lui la musique contemporaine, il pensait que c'était de la musique de recherche, quoi. C'est une musique savante, de recherche, destinée à une élite. Il disait que lui, la musique contemporaine qui était la sienne, c'était celle, mettons, des Pink Floyd, des Beatles, de Zappa, enfin de la pop ou le rock de son époque. Il disait que les vrais séismes musicaux des 20 dernières années, pour lui, c'était vraiment les Beatles et les Pink Floyd, par exemple, quoi. Et il disait, voilà, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est se servir de sa polyvalence instrumentale. Il jouait 30-40 instruments et du magnéto 8 pistes qu'il avait acheté, en pouvant comme ça s'enregistrer en re-re sur chaque piste avec des instruments différents. Et ça, ce qui fait que d'ailleurs il est le maître absolu de sa musique, parce que souvent un compositeur écrit pour une formation donnée va engager un guitariste, un trompettiste, etc. Mais le compositeur n'est pas lui-même l'instrumentiste. Donc l'instrumentiste parfois ne joue pas exactement, n'apportera pas la nuance que le compositeur a en tête quand il écrit sa musique.
Il y a un truc qui est très beau chez De Robert, c'est qu'il n'hésite pas à faire chanter des gens, même des fois des gens qui chantent pas très bien, mais l'émotion dans la voix, elle est là, quoi. Alors que je pense que Morricone ne serait jamais permis d'avoir une fausse note dans la voix. Il va prendre Morricone, il va prendre Mireille Mathieu, on va s'emmerder. Alors que De Robert, il va prendre Alain Delon et il va mal chanter, mais c'est plus beau.
Pour moi qui vis depuis une dizaine d'années avec Mireille Mathieu, on a pris un appart ensemble, je trouve que c'est quelque chose qui ne, je ne suis absolument pas d'accord.
Mireille Mathieu, chante
New Morricone. Dans la vie, elle est très chouette, mais quand elle chante...
Non, je ne suis pas d'accord. J'aime beaucoup.
Mais non, mais en fait, oui, c'est vrai, finalement, l'approximation, la mise en place de Roubaix a moins d'importance que l'émotion qui va pouvoir... C'était pas... Il n'avait pas ce souci du perfectionnisme absolu.
Non, mais je parle de ça en particulier parce que je sais que dans la musique de film, en particulier, il y a beaucoup de classicisme et il y a beaucoup de gens qui viennent du conservatoire et qu'on apprend les choses très techniquement et que quand on découvre le travail de Roubaix, c'est une bouffée d'air frais, quoi. C'est comme quand on découvre l'art brut ou quand on découvre comme du dessin d'enfant. C'est des choses qui ont une fraîcheur, qui ont une spontanéité.
Ou qu'on vient à Radio Campus.
Voilà, ou quand on vient à Radio Campus. Mais ça leur donne... Ça n'empêche pas que ce qui compte pour moi, c'est l'expressivité. Et l'expressivité, elle est là chez De Roubaix. Et elle n'est pas forcément là dans une musique orchestrale qui est très bien écrite et très bien interprétée. Mais ça ne suffit pas, quoi. Ce qui compte, c'est l'émotion et l'expressivité, la personnalité aussi.
Mais écoutez, moi j'avais 5 ans quand De Roubaix est mort, donc par la force des choses, je ne l'ai pas connu. Mais j'ai eu rencontré à plusieurs, à une dizaine de reprises, à New Morricone, et je peux vous assurer que sans avoir connu De Roubaix, je peux imaginer que Morricone me fait énormément penser à ce grand comédien qui nous manque, Jacques François.
Ah, grand monsieur.
L'humour en moins, ils ont le même opticien. et c'est vrai que ce sont des. Pour arriver à faire rire ou sourire Morricone, faut y aller.
Faut y aller.
C'est quelqu'un d'assez distant, de froid, qui est un personnage comme ça, très très retenu. Alors forcément, quand il se retrouve avec des amis italiens de sa génération, il se lâche, il se livre plus facilement. De Roubaix était quelqu'un quand même avec rien que le physique, la barbe, les cheveux longs, il correspond à une utopie aussi, et à une envie de fraternité et de partage. Le fait qu'il fasse des boeufs chez lui avec ses copains musiciens tous les samedis comme ça, pour justement comme une bouffée d'oxygène pour se désintoxiquer du cinéma. Et voilà, c'est un... Je pense que tous les metteurs en scène qui ont travaillé avec lui l'ont regretté terriblement après ce tragique mois de novembre 1975.
Et comme vous l'avez remarqué, vous êtes bien dans Grand Pamir Radio Show et on va pas passer le thème de Chapi Chapeau, ça serait trop facile. On va passer une petite curiosité que nous a amené Stéphane Lerouge, bien sûr. Ça s'appelle Avec des cubes.
Oui. Ça s'appelle Avec des cubes, oui.
Ça s'appelle Avec des cubes. Et c'est aussi tiré de Chapi Chapeau.
Alors en fait, le succès de la série était tel à l'époque que De Roubaix a regretté qu'il n'y ait pas finalement des versions chantées avec des vraies paroles sur les deux thèmes.
D'accord.
Et donc il a fait écrire des paroles par un auteur qui s'appelle Charles Level, et qui par ailleurs est l'auteur d'une chanson qui pour nous tous est un phare, qui est La Bonne du Curé d'Annie Cordy.
Ah,
magnifique.
Donc Charles Level écrit ses paroles.
Lumière étincelante.
Et oui. Bien sûr. Donc voilà, donc Chapi Chapeau chanté, et donc les deux voix sont faites par une comédienne chanteuse de l'époque qui s'appelle Linette Lemercier, mais qui n'est pas créditée sur le disque. C'est marqué les chansons sont chantées par Chapi et Chapeau. Voilà.
Ah bah oui, c'est les personnages qui chantent.
Ce sont les personnages qui chantent. Voilà, j'ai pas assisté à la séance à l'époque, j'aurais aimé être là. Mais voilà donc cette chanson qui s'appelle donc Avec des cubes.
Et juste après, c'est quelque chose... C'est écrit inédit, l'Antarctique.
Ah oui, alors ça c'est sublime. Vous savez que... Chez tous les compositeurs, il y a des graals en quelque sorte, c'est-à-dire des musiques qui n'ont jamais été éditées, qui n'ont jamais été publiées, dont on sait qu'elles existent, mais on ne les a jamais vues ni entendues, et parce qu'elles ont été parfois refusées par les metteurs en scène. C'est, mettons, je dis n'importe quoi, la musique de Michel Legrand pour Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, musique enregistrée que Melville avait foutue intégralement à la poubelle. Et c'est, dans le cas de De Roubaix, une partition écrite, enregistrée pour le commandant Cousteau, pour une série sur l'Antarctique. classique, deux téléfilms d'une heure et demie.
D'accord.
Et la rencontre entre De Roubaix, passionné par la plongée sous-marine, l'océan et l'écologie maritime en général, et le commandant Cousteau tombait sous le sens. Sauf que Cousteau, et De Roubaix l'a pas bien mesuré, avait des goûts en matière de musique assez, disons, frileux, sinon conservateurs.
Et quand... Sacré commandant, sacré Jacques-Yves.
Sacré Jacques-Yves. Moi j'appelle Jacques. Et quand le commandant Couchetard a découvert sa musique, ses images avec la musique d'électronique de De Roubaix, je crois qu'il a failli avaler son bonnet rouge.
Bien sûr.
Il a dit, bon, je vais réfléchir.
Non, pas ça sur mes cachalots, c'est pas possible, quoi.
Et le pauvre De Roubaix a pris le lendemain que finalement que Cousteau allait utiliser des musiques de Ravel ou de Brahms sur ses images. Ouais. Voilà. Et ça a été une blessure vraiment pour De Roubaix. Il y en a eu quelques-unes comme ça, des vraies grandes déceptions profondes dont il a mis longtemps à cicatriser. Et ça a été là aussi une espèce de comment dire, j'ai failli avoir une panne de pacemaker quand un jour au fond d'une caisse d'archives, j'ai retrouvé les bandes complètes de l'Antarctique et je me suis dit, il faut absolument rééditer cet Everest du parcours de Roubaix.
Très bien.
À tout à l'heure, mes chéris.
Avec des cubes, on peut tout faire. On peut construire. On peut tout faire. On peut construire un univers. Des ponts de pierre sautant des rivières, des murs, des barrières et des îles entières. Pour l'avenir, avec des stades, des grandes cascades et des esplanades pour la promenade. Avec des cubes, on peut tout faire. On peut construire un univers où tout le monde, les hommes et les bêtes, ont leur maison nette pour l'hiver.
J'ai vraiment l'impression d'être au milieu de l'océan. Oh, un banc de poissons. Comme c'est beau le fond des mers avec...
des saumons.
Avec François Droubet, des saumons.
Ouais. Moi, je trouve ça tout ça un peu pas très poétique finalement, parce que enfin, la musique, je la trouve sublimissime, défenestrante. Mais je veux dire que pendant que c'est. Faut que les auditeurs.
Défenestrante.
Défenestrante. pendant que la musique était diffusée, voilà, les auditeurs doivent savoir qu'une discussion de fond s'est engagée dans le studio.
Oui, c'est parti.
Sur Jacky Sardou. Et je trouve que.
Et Daniel Evenou.
Et Daniel Evenou. Je me demande comment, sur une musique de Deroubet, une musique pareille, ça puisse déclencher l'évocation de Jacky Sardou.
La nostalgie.
C'est le côté cachalot, peut-être. Quelqu'un a parlé de cachalot, je sais pas.
Non, mais c'est
ou de Mérou, je sais pas.
Ah, bravo, c'est de bon goût les mecs.
Vraiment, c'est vraiment la classe. Hein, bravo, je trouve ça, on dirait quasiment du Frédéric Lefebvre là.
Maintenant, toujours la classe. Et comment faire une émission qui parle de musique de film sans Michel Legrand?
Oui.
Évidemment, l'unique. Il porte bien son nom. Mm. C'est celui qui resterait si tout le monde partait sur notre planète.
N'exagérons rien, mais ça fait partie des très grands compositeurs. C'est vrai que c'était Legrand est quasiment un mythe vivant de la musique de film. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que Maurice Jarre en était un aussi. Maurice nous a quittés cette année. Chiffrine également, mais Michel, je sais pas, moi j'ai toujours été c'est aussi des réminiscences d'enfance. Ouais. Évidemment, la découverte finalement de son écriture à travers des choses qui sont pas forcément d'ailleurs en valeur absolue ce qu'il a écrit de plus durable et de plus frappant, mais Oum le Dauphin malgré tout reste un souvenir très très fort.
Je crois qu'on l'a passé dans cette émission. C'est possible.
Et moi j'ai un cadeau pour Stéphane Le Rouge à la fin de l'émission.
Enfin, tout de même, parce que moi je viens pas comme ça, mais je veux des cadeaux. Moi j'ai une fascination pour l'écriture de Michel, pour son parcours, la luxuriance de son écriture, sa façon, ses trouvailles orchestrales, toujours vraiment, et puis sa façon d'être un peu un passeur finalement, un agent double, un agent triple entre à la fois la musique classique, symphonique, le romantisme, mais aussi le jazz, les jazz, le swing, le bebop, et même le rock ou la pop d'une certaine manière. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus quand on voit des films comme Thomas Crown, les films de Godard, Le Messager.
Et les films de Demi.
Les films de Demi, évidemment. Et justement, tout ça, quand on écoute une partition comme Podane, il y a justement toutes ces influences, à la fois classiques, baroques en l'occurrence, mais aussi de pop. Et c'est un peu à l'image du film lui-même, c'est-à-dire Demi qui retraite un conte de fées de Perrault, mais avec tout ce qu'il a vu sur la côte californienne dont il vient de rentrer. C'est-à-dire notamment le Varol et le pop art, quoi, et les chevaux, les chevaux rouges de Jacques Perrin dans la verdure d'une forêt de printemps, c'est picturalement, c'est quelque chose de très fort.
Et il me semble que Michel Legrand traîne un petit peu une vieille casserole. Il aurait fait des musiques pour Herbert Léonard. Alors, pas facile. Apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Quand tu m'aimes, serait écrit par, évidemment, notre ami de Questions pour un champion,
Julien Lepers.
Et la musique par Michel Legrand. Étonnant.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça?
Tu pourrais nous le confirmer.
Je vous donnerai tout à l'heure le portable de Michel Legrand. Vous l'appellerez, vous lui poserez la question. S'il raccroche tout de suite, vous comprendrez, j'espère, le sens de la réponse.
Oui, c'est possible. Donc, le mystère reste entier. À vous de vérifier. Et juste après, évidemment, on se souvient de la musique de Mission Impossible, magnifique. D'ailleurs, c'est un cousin à moi qui joue du bongo dessus. C'est la Lochifrine.
Oui. Ben oui, on a une petite séquence avec d'abord la musique la musique du Chasseur.
Le Chasseur avec Michel Legrand.
Alors avec Michel Legrand, vous savez qu'en fait Legrand a mis en musique trois films interprétés par Steve McQueen, Le Chasseur, Le Chasseur, donc qui est le dernier film de McQueen, et en le prenant dans l'ordre chronologique même, soyons plus rigoureux, donc Thomas Crown 67, Le Mans 72 et donc Le Chasseur en 80. Et Le Chasseur a une histoire assez étrange, c'est-à-dire que quand j'ai retrouvé les bandes, d'abord j'étais fou de joie, et on les a écoutées avec Michel, et Michel m'a dit, mais c'est très curieux, parce qu'en fait, j'ai eu un gros problème avec la production du film qui n'aimait pas ce que j'avais écrit, c'est-à-dire des mélanges à la fois entre un big band et un orchestre baroque, ou alors un groupe de rock, presque funk, et un orchestre baroque. Et le producteur disait non, il fallait une musique plus traditionnelle, qui aille moins dans toutes ces directions. Et donc le producteur a engagé, contre l'avis du metteur en scène, un autre compositeur. Et Michel s'est battu avec le metteur en scène du film. Et finalement, il y a eu un arrangement à l'amiable qui a été trouvé avec le studio, qui était la Paramount, à savoir qu'en fonction des territoires, ce serait soit la musique de Michel, soit celle de l'autre compositeur, qui est un compositeur américain qui s'appelle Charles Bernstein. Et donc voilà, donc en fonction du film, la version que vous voyez, c'est la musique de Legrand ou ce n'est pas la musique de Legrand. Et comme le film est sorti en DVD, si vous êtes sur la version française, c'est la musique de Charles Bernstein. D'accord. Et si vous êtes sur la version originale, c'est la musique de Michel Legrand. Donc ce qui fait un truc complètement schizophrène, parce que vous changez la piste audio et c'est plus du tout le même film, puisque c'est plus la même musique. Et on va donc écouter un espèce de truc à la fois rock baroque. Le rock est inclus dans le baroque et qui est assez marrant. Et voilà, c'est une très belle partition de Michel.
Est-ce que tu sais si Michel Legrand s'entendait bien avec Steve McQueen ? Parce que s'il a fait trois films pour Steve McQueen, à mon avis, McQueen devait être très content de l'affaire Thomas Crowe, genre de la musique qu'il a.
Bien sûr,
donc ça devait être McQueen qui a dû faire venir Michel Legrand dans cette production, dans cette histoire, non ?
Le Mans étant tourné en France, ils se sont dit un film de McQueen tourné en France, c'était logique de chercher un grand compositeur français. Et comme McQueen avait adoré la musique de Thomas Crown, il a suggéré Legrand. Mais curieusement, Michel m'a toujours dit qu'il avait rencontré McQueen uniquement en venant sur le tournage du Mans, sur le circuit du Mans en l'occurrence. Et là, il a vu McQueen qui lui a dit: bonjour monsieur Legrand, voilà, je voulais vous dire que ce que vous aviez écrit pour Thomas Crown, mais évidemment,
avec
un accent américain un peu plus prononcé quand même.
Oui, là je vous le fais soft.
Salut Michel, j'adore ta musique.
Putain, je ferme les yeux, j'ai l'impression que il y a Steve McQueen devant moi là, c'est fou.
Ah, séquence beau gosse.
Steve McQueen dansant sur la samba d'Obélix dans les travaux, tout se mélange là.
Et ça va encore se mélanger avec, comme on l'a dit tout à l'heure, la Lochifrine, la Féline.
Les félins. Oui.
Je suis perdu, je suis complètement perdu.
Non, mais là, je pense, là, ça va être l'heure de sa piqûre. les félins, moi, j'ai eu la chance de travailler à plusieurs reprises avec Chiffrine et puis un jour de lui parler des félins, qui est son premier grand film, film de René Clément, tourné, production américaine, mais tourné dans le sud de la France, avec Alain Delon et Jane Fonda. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que cette musique n'est jamais ressortie? Et là, je vous fais vraiment la vraie imitation de Lalo Schifrin.
Imitation.
Avec son accent argentin, qui dit, alors, les films, c'est le premier film, moi, et la musique n'est jamais sortie, mais je veux, et j'ai gardé les bandes dans la cave de ma maison, Beverly Hills. Je lui dis, mais tu sors les bandes tout de suite.
Plusieurs personnages,
et on veut absolument... Bon, et le truc s'est déclenché comme ça, il a ressorti les bandes, il les a écoutées, ça lui a plus. On ne connaissait de cette musique que les reprises que Chiffrine en avait faites, par exemple avec l'organiste Jimmy Smith, sur un album qui s'appelle The Cat, d'ailleurs, en hommage au félin.
C'est vrai.
Et on en connaissait aussi la version qui est reprise par Nougaro.
Oui, c'est vrai.
Et voilà. Et pour la première fois, plus de 40 ans après la sortie du film, la musique des félins a enfin existé pour la première fois en disque. Et Chiffrine dira avec assez d'émotion, comme ça, quand on fera l'entretien pour le livret du CD, il me dira, si on comparait un peu ma maison à ma carrière, à une maison, on peut dire que les félins, c'est la fondation de la maison. Parce qu'il y a là-dedans en germe tout ce qu'il va faire des années plus tard dans Mission Impossible et dans Bullitt et dans Dirty Harry. Voilà, tout est déjà contenu en quelque sorte. Ce mélange entre le jazz, la pop, une écriture classique aussi, des timbres bizarres, enfin... Voilà, c'est un peu une compression, un peu un brouillon, une esquisse, mais déjà magnifiquement abouti de ce que Chiffrine va construire et développer.
Oh,
ça m'angoisse trop, on va peut-être arrêter. J'ai trop peur. Quoi.
Ah bah je vois ça. On peut pas danser la samba tout le temps non plus. Hein.
Est-ce que t'as été demandé à Alain Delon ce qu'il pensait de cette BO qui a été ressortie de la cave de
Non, mais il y en a eu d'autres, parce que curieusement, un an plus tard, j'ai retrouvé les bandes master complètes de la musique de Plein Soleil, musique de Nino Rota.
Magnifique.
Qui était un peu, finalement, ça, les deux films forment une sorte de diptyque. Plein Soleil, René Clément,
oui,
Alain Delon,
ouais.
Tourné dans le sud de la France ou dans le bassin méditerranéen, dans les deux cas, et deux grands compositeurs étrangers. Et Delon, curieusement, malgré les demandes là-dessus, il dit tout le temps qu'il est prêt à parler de tout ça, des musiques de ses films, de Roubaix avec lequel il était très ami.
Ouais, les aventuriers.
Et finalement, le rendez-vous n'a jamais pu être pris, quoi, à ma grande déception. Mais bon. Mais puisqu'on parle de chiffres, moi je peux vous raconter, je vous la fais très très courte, mais
allez,
une situation qui m'a vraiment marqué à vie, c'est que Chiffrine, quand il vient en France, il a, étant donné qu'il a été formé au Conservatoire de Paris, il a passé 4 ans à Paris. Je crois,
il parle bien français.
Il parle bien français, comme avec
un argentin. Et
on se moque pas des latino-américains, d'accord.
Bien sûr, non mais je le fais pour la dernière fois de ma vie là. Après c'est fini.
Pas des conneries.
Et donc on fait une rencontre, une leçon de musique au Festival de Cannes en 2004. Et donc il fait là, il dit, tiens, je lui dis, mais Lalo, on peut faire le truc en anglais ou en espagnol, il y a des traducteurs, des casques. Fait, non, moi je vais parler français. Mais notamment, comme il ne pratique pas, il cherche ses mots comme ça. Alors on regarde un moment donné, au bout d'une demi-heure de conférence qui durait une heure et demie. On arrive à Bulit et il dit, oui, je vais voir les génériques de Bulit, mais moi je voudrais dire d'abord que la première chose, le premier sentiment que j'ai quand j'ai vu le premier montage de Bulit, c'est que j'étais très... Moi, je cherche à l'aider. Je lui dis, je sais pas, j'étais très heureux. Non, c'est pas heureux, vraiment. C'était plutôt, j'étais très. Je vois les films Bullet. Et là, je me dis, je suis très. Alors, je suis content. Oui, mais c'est pas le mot content exactement. Alors, c'est le mot très. Non, pas surpris. Bon. Et finalement, alors, il dit, alors, on va voir l'extrait. Genre, on envoie l'extrait, hop. Et ça se termine, il fait, je voudrais vous dire 5 minutes, je vais aux toilettes. Alors, il va aux toilettes, il revient, etc. Et puis on enchaîne sur autre chose, comment dire. Et puis à la fin, la conférence se termine, et les gens commencent à l'applaudir. Il fait, ah oui, pardon, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est que j'étais vraiment de bonne humeur. Voilà ce que je voulais dire. Mais ça nous avait pris une heure et demie c'est avant d'arriver à de bonne humeur.
Il faut qu'il aille pisser pour... De bonne humeur.
De bonne humeur, voilà. Alors la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on
La suite, c'est The Brain. Le cerveau.
Oui. Qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus?
Alors qu'est-ce qu'il faut dire?
Belmondo.
C'est la 18 du CD, c'est la seule info que j'ai.
Ah bah d'accord, très bien. Excusez-moi, je voudrais pas être désagréable, mais cette émission se délite complètement. Tout fout le camp, c'est... Non, dans les quelques disques que je vous ai apportés, qui sont extraits, est-ce que je peux au moins le rappeler, que ces enregistrements ont été publiés dans une collection dont que modestement
tu diriges avec talent, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on t'a invité.
C'est aussi pour ça,
dans une maison de disques indépendante qui s'appelle Universal Music Jazz France.
Oui.
Et on a créé la collection en 2000, donc ça va faire 10 ans l'année prochaine, et elle compte plus de 90 références. Je pense pas que quand on a commencé, on pouvait imaginer qu'on arriverait, on sortirait autant de disques, et puis surtout qu'on l'enrichirait progressivement avec des compositeurs comme Jarre, Legrand, Gainsbourg, Paul Naref, Delru, Magne, De Roubaix, et puis des étrangers, donc Nino Rota dont je vous parlais, Jerry Goldsmith.
On a parlé de la collection Gainsbourg avec Christian. Dans une émission
le
érotique,
coffret,
ouais,
le coffret magnifique, le long play Gainsbourg,
le cinéma de Serge Gainsbourg, ouais. Voilà,
et avec le morceau qui était parti entre les deux éditions.
Il y a un morceau
de
Michel Mercier qui avait été censuré.
La fille qui fait chic chic chic.
Voilà. Pour Michel Audiard.
Et puis un jour, on a vraiment un travail au long cours avec la femme, la veuve et ayant droit de Georges Delru, qui s'appelle Colette Delru, qui comme moi a un vrai goût pour les musiques symphoniques qui ont une certaine dimension de Delru.
D'accord.
Et un jour je lui dis, Colette, on va peut-être rééditer la musique du cerveau. Bon, et c'est vrai que c'est une musique un peu ovniesque dans le parcours
pour
de Delru, grand symphoniste, mais où Delru finalement écrit pour Houri une musique tout à fait classique avec une grande valse parisienne symphonique pour le générique début. Et Uri lui dit, écoute, c'est pas mal, mais j'ai envie, moi, de capter l'air du temps. Le film se passe en partie à Londres. J'ai envie d'injecter à mon film l'esprit du Londres des années 60, du Swinging London. Ouais. Et je pense qu'il faut que tu revoies ta copie. Et Delru a dû se dire, bah voilà, a dû finalement se confronter à ce qui était dans l'air du temps. C'est-à-dire que je crois qu'il a compris que dans l'absolu, Uri aurait adoré mettre les Beatles en générique début. Et voilà comment Delru, compositeur ultra classique, élève de Darius Milhaud, s'est retrouvé finalement comme un pur exercice de style à écrire une chanson qu'il a appelée The Brain, le cerveau donc, qui est comme une espèce de peinture pop du personnage, un portrait pop du personnage joué dans le film par David Niven. Voilà. C'est un exercice de style, mais dans lequel on retrouve quand même l'écriture, notamment les cordes derrière vraiment du grand Delru.
Bah oui, ouais.
Et juste après, un générique pour une série qui aurait été dirigée par Orson Welles, par John Barry, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ça, c'est un souvenir d'enfance très très fort. 74, sur TF1, il y avait une émission qui s'appelait Le samedi est à vous. C'est mon premier souvenir de télévision. Je revois ce générique avec Welles, avec son grand chapeau, sa cape solarisée, que vous savez, en noir, en rouge, en jaune, se promenant dans un champ de ruines, une maison en ruine. Et là-dessus, ce thème générique écrit par John Barry, qui a reproduit un peu la formule orchestrale d'Amicalement Vôtre dans deux autres séries, donc L'Aventurier et cette série, Orson Welles' Great Mysteries, avec, vous savez, un moog, une rythmique, et puis le son typique de ce cymbalum incroyable, sur une mélodie absolument envoûtante, entêtante. Et voilà, ce sont deux grands souvenirs. Et ce thème des mystères d'Orson Welles vient de figure dans un disque qui est paru il y a une semaine, donc c'est plus que frais, qui s'appelle Americans, et qui est la résurrection d'un album inconnu, méconnu de John Barry, publié en 1975, uniquement en Angleterre et au Japon, vendu à l'époque à 12 exemplaires monde, je caricature à peine. Et c'est lors de la rencontre avec John Barry, qui est venu dans un festival de musique de film dont je m'occupais à Auxerre. Et j'ai demandé à Barry, je lui ai dit, mais John, est-ce qu'il y aurait une partition vraiment à ressortir, un truc un peu rare? Et il m'a dit, j'aimerais tellement qu'Americans ressorte. Et voilà, ça a pris 2 ans pour retrouver les contrats, localiser les bandes dans un stockage, enfin dans un hangar au nord de Londres, les rapatrier, les restaurer, et faire en sorte que cet album existe à nouveau.
Et c'est donc sorti il y a une semaine, donc que des inédits sur...
C'est une farandole d'inédits.
Mais tout de suite, The Brain. Who's got a computer for a mind? The Brain. Who's got an IQ like an Einstein? The Brain. Diabolically cool, don't fool with the brain.
Thank you.
part dans l'espace, là, avec John Barry.
C'est un peu un hommage à Raymond Lefebvre pour la soupe aux choux, quand même.
On est sur la planète Oxolater, si vous voulez.
Réédité par toi-même.
Est-ce que vous pourriez rendre hommage à Jacques Villeret dans la soupe aux choux?
Voilà.
Je savais bien, je me demandais lequel allait le faire, mais voilà, mais je savais, il y aurait forcément...
On est grillé là, on est grillé.
On est surgrillé. La question qu'on a envie de se poser, au fur et à mesure des morceaux, c'est toi qui es spécialiste, est-ce qu'il y a un compositeur de maintenant qui te tient à cœur ou pas du tout, ou c'est la catastrophe, ou peut-être il y a des nouveaux talents?
Ah, il y a beaucoup de nouveaux talents. C'est, en fait, le grand problème depuis quasiment 10-15 ans, c'est que...
20 ans.
Pardon ?
20 ans.
Non, 15 ans.
Tout de 25 ans.
Non, je dirais vraiment 10-15 ans. Le vrai problème depuis le 12 février 1994, 15h13, non, c'est, le problème, c'est qu'évidemment, Tarantino a fait beaucoup d'émules, et je dirais même beaucoup de mauvaises émules, et beaucoup de cinéastes qui pensent qu'ils ont sa culture et son intelligence dans le fait de dénicher des musiques additionnelles, qui deviennent même plus additionnelles, qui deviennent les musiques des films tout court, des musiques existante, et c'est un peu comme une espèce de gangrène qui a contaminé le cinéma, genre pas mondial, en tout cas occidental, américain et européen. Et voilà, donc l'accès au métier est beaucoup plus difficile pour nouvelles générations de jeunes compositeurs.
Alors moi, c'est plus facile et moins cher de faire une simple compilation de morceaux déjà existants.
En plus, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est une idée qu'on peut avoir a priori, mais à partir du moment où on touche à des œuvres anglo-saxonnes, généralement, là, c'est le coup de bambou quand même. Ça peut coûter beaucoup plus cher, quoi. Voilà, et donc c'est vrai que je suis très admiratif de camarades comme évidemment Bruno Coulet, Alexandre Desplat, qui fait une très belle carrière internationale, et parmi des gens un peu pas forcément aussi connus, mais il y a un compositeur qui s'appelle Philippe Rombi en France, Pierre Adenau, qui est un jeune compositeur.
Ils ont travaillé pour quel film par exemple?
Pierre Adenau a fait tous les films de Sam Kerman, Kennedy et moi par exemple, qui est une très très belle partition. Philippe Rombi fait tous les films d'Ozon notamment, et puis aux États-Unis il y a aussi par exemple, il est plutôt jeune, mais Howard Shore est un très grand symphoniste contemporain. Enfin, il y a quand même des compositeurs qui sont là.
Mais je vois un compositeur comme Howard Shore qui a fait des musiques notamment pour Cronenberg, si je ne m'abuse. Il a travaillé, c'est lui qui a fait Le Seigneur des Anneaux, etc.
Bien sûr. Ouais.
C'était pas fracassant. Est-ce que ces gens-là, ils sont pas à un moment donné bouffés par le système hollywoodien et est-ce qu'ils sont pas obligés de faire des partitions très classiques?
Je pense
au Seigneur des Anneaux, notamment pour Howard Shore, parce que je trouve que c'est un truc frappant, c'est que la musique est assez lourdingue dans le film, à mon avis, que le film c'est lourdingue aussi.
Quand je pense à Shore, je pense plutôt au Shore de Crash, qui organise
d'il y a 15 ans,
mais il a fait par exemple
Naked Lunch ou des choses comme ça.
Naked Lunch avec Ornette Coleman, mais par exemple, Shore a écrit une très très belle partition pour le dernier film de Scorsese.
Pour Cédric Kahn, mais pour Esther Kahn, le film de Desplechin, une très belle partition.
Donc 2001, donc ça fait jamais que 8 ans.
Ouais.
Il n'y a pas si longtemps que ça. Non, mais il y a des très grandes partitions, comment dire, contemporaines, actuelles, mais c'est vrai que l'époque est telle, il n'y a plus quand même cette espèce de profusion que l'on avait dans les années 60, 70, même 80. Et je pour être tout à fait honnête, c'est une question que je me pose souvent. Quand je regarde ce qui sort, je me dis, je serai peut-être plus là dans 20 ans ou dans 30 ans, mais qu'est-ce qu'on ressortira de ce qui aura été publié, par exemple, en 2009, dans 30 ans, quoi, en 2039, par rapport à l'avalanche de grandes partitions, sinon même parfois de chefs-d'œuvre, qui pouvaient sortir la seule année 76, quoi. Ou la même semaine, vous pouviez acheter aussi bien le Casanova de Nino Rota, Fellini, que la musique de La Loup la Cuisse de Vladimir Kosma.
Donc en fait, c'est plutôt une baisse du cinéma, c'est une baisse de la qualité du cinéma. Donc
je dirais pas de la qualité du cinéma en tant que ça, c'est une baisse de l'ambition que les metteurs en scène ou les producteurs peuvent avoir pour la musique de leurs films.
Et bien maintenant on va encore parler jeunesse.
Peut-être qu'il y a moins de personnalité marquante aussi dans les compositeurs.
Je suis pas d'accord, je pense qu'il y a moins de personnalité, que l'on a la curiosité d'aller solliciter d'aller chercher ou alors finalement c'est aussi ça le talent d'un metteur en scène ou d'un producteur, c'est aussi d'aller chercher un compositeur pour réveiller un aspect un peu méconnu de sa personnalité. Et la curiosité, elle est plus forcément là, comment dire, chez les producteurs d'aujourd'hui. Et c'est lié beaucoup à la technologie aussi. C'est lié beaucoup au montage en numérique. À partir du moment où on a commencé à abandonner le montage traditionnel en 35 et à monter en numérique, c'est très très facile de coller une musique préexistante sur des images pour monter les images en rythme et en tempo. Et à partir du moment où un metteur en scène, pendant des semaines au montage, il voit ces images avec une musique préexistante, je peux vous garantir qu'il ne peut plus ensuite les envisager autrement. D'accord. Et quand un compositeur arrive et qu'on lui dit bah voilà, tu vas essayer de nous faire à peu près la même chose, le compositeur, s'il essaye de faire la même chose, ce ne sera jamais aussi bien. Et s'il essaye de faire autrement ou autre chose, son propre regard à lui, on lui dira ah oui, mais ce n'est pas du tout la musique à laquelle on s'est habitué et à laquelle on tient. Et donc voilà, donc du coup, on achète des droits.
Est-ce qu'il y a une culture de la musique de film peut-être qui du coup disparaît de fait que les cinéastes avaient l'habitude de travailler avec des compositeurs, donc ils en parlaient.
Des compositeurs attitrés, ouais.
Et ils en parlaient, etc. Et que maintenant, ça se pratique moins, où il y a moins d'échanges comme ça, où cette culture d'une certaine époque, elle se transmet plus peut-être.
Oui, enfin,
c'est une question.
Quand je vois par exemple comment travaillent Alexandre Desplat et Jacques Audiard, je me dis que quand même il y a des grandes collaborations qui peuvent se nouer. Et dans lesquels d'ailleurs Audiard utilise aussi des œuvres préexistantes dans ses films, donc c'est pas non plus complètement utiliser quelque chose, une œuvre musicale qui existe déjà non plus n'est pas forcément une mauvaise solution, mais simplement faut pas que ça devienne systématique, quoi, c'est tout.
Et maintenant on va encore parler de jeunesse et d'aujourd'hui avec deux remixes assez mystérieux, assez qui vont un peu faire tache dans cette programmation
de qualité,
si raffinée et si élégante. Quelque chose un peu agressif, si j'ose dire. On commence d'abord avec la super compile de nos amis d'Ego Twister.
Ah, on les embrasse, Ego Twister.
Ego Twister, c'est un petit label d'Angers, donc musique électronique plutôt.
Comme très belle ville de musique, Angers.
Comme leur nom l'indique d'ailleurs.
Oui.
Et donc, c'est une compile de reprises de thèmes connus du cinéma.
De musique de film, ouais.
C'est la deuxième compile, je crois, qu'il fait sur le thème de la musique de film.
Non je ne pense pas. Enfin, en tout cas, voilà, celle-là, elle est entièrement consacrée à la musique.
Non, mais Christian, dès que ça passe 2005, il ne sait plus rien.
Je suis un peu paumé, mais j'aime beaucoup le Yann, que j'embrasse.
Oui, car Christian est dangereux, comme tout le monde le sait.
Chacun le sait.
Donc, voilà, c'est une compilation qui est assez réussie, où il y a plein de musiques de films qui sont reprises. Donc il y a des thèmes français, mais il y a aussi évidemment James Cameron, non pas James Cameron, John Carpenter.
C'est autre chose.
Je les confonds toujours.
Étrangement.
Il y a Moroder.
John Carpenter, Moroder. Beaucoup de films de musique des années 80 dans cette compilation.
Non, il y a Jacques Tati. Une belle reprise de Mon Oncle que je trouve assez drôle.
Et donc là, on va passer
Le Grand Blond
de Sirba, donc le thème même principal du
Grand
Blanc,
qui est chaussure noire. Ouais.
Voilà, qui est repris par quelqu'un dont je ne sais rien, qui s'appelle Silent Seed.
Ouais.
Et voilà, donc c'est une sorte. Alors, ce qui est intéressant dans cette compilation, c'est qu'il a demandé à tous les artistes de ne pas utiliser de sample du film.
Donc là, tout est rejoué.
Tout est rejoué. Il ne peut pas y avoir de samples musicaux du film. Donc là, on a des samples des voix des acteurs.
Des voix, ouais.
Mais ils ont du tout réécrire, réarranger avec leurs outils qui sont plutôt des ordinateurs.
Et quelqu'un qui n'hésite pas à faire des samples sans aucun scrupule, c'est notre ami Lazy Flo, à qui on a consacré une émission l'année dernière. Et là, il nous remixe, ça fait un petit moment qu'il existe ce morceau, le thème des gendarmes à Saint-Tropez. Et sur une rythmique bimore venue de Baltimore, alors c'est très agressif. Et Lazy Flo, comme il faut un petit peu de copinage, il sort un maxi là, qui s'appelle El Conquistador, que je ne saurais que trop vous recommander. Mais là, on va écouter les gendarmes à Saint-Tropez et juste avant Le Grand Blanc avec une chaussure noire, remix de jeunes.
Pourquoi une chaussure noire ?
Il y avait un grand noir à Orly. Un grand noir avec un lodène vert. J'ai préféré un grand blond avec une chaussure noire à un grand noir avec un lodène vert.
Tu parles bien, François. Bien du tout, tu sais.
Mmh. voilà. Oh, c'est tout dit, vous pouvez aller travailler, Bernard, 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 Bernard. Vous êtes bien nerveux, mon petit Bernard.
Pas du tout, c'est que je ne vous avais pas entendu venir, monsieur.
Eh bien, moi, la différence, c'est que je vous vois toujours venir.
Rajustez-vous, boutonnez-moi ça. écoutez-moi bien. Vous savez que le gendarme est à la nation ce que le chien de berger est au troupeau. Il faut souvent aboyer, parfois mordre, mais toujours se faire craindre.
Alors, on peut demander tout de suite à Stéphane Lerouge si tu valides ce magnifique morceau de Lazy Flow ou pas du tout, ou c'est, si c'est vraiment une catastrophe.
Non, bah, je viens juste de découvrir sur quoi j'allais faire mon réveillon 2009. Voilà, donc je suis assez.
Bonne
voilà,
année.
Bonne année.
Je peux te laisser le disque si tu veux. Ah, tu peux repartir avec.
On m'avait dit qu'il y avait des cadeaux. Voilà, les cadeaux sont là. Comment dire, je ne repartirai pas les mains vides.
Les cadeaux vont arriver très très vite.
Oui.
On s'était rencontrés il y a 5 ans pour un vernissage Julien Carin, rue de Verneuil.
Ah oui, Julien Carin.
En face de chez Gainsbourg, où tu avais passé un extrait de DVD de La Valise où tu avais interviewé Philippe Sard chez lui dans son intérieur.
Oui.
On avait parlé beaucoup de Michel Legrand et je t'avais promis le Oum le Dauphin.
Ah, c'est très gentil.
Que j'ai en double.
Cadeau.
Ah, c'est gentil. Cadeau. Voilà. Ah, bah écoute, mon premier cadeau me fait très plaisir.
Voilà.
Mais je t'avais promis il y a 5 ans. Christian Embrun à Oum le Dauphin en double.
En double.
Oui. C'est quand même la super classe.
Ouais. Ah, c'est génial. Ça vraiment.
Ce qui est très rare.
Voilà. Ah, oui. C'est un choc.
C'était un choc alors.
Pour beaucoup. Et...
Oui. Alors je peux vous raconter une petite histoire.
Bah,
je vous la fais très très courte parce que je vois qu'il est déjà, il va bientôt être l'heure de nous quitter, c'est que j'avais photocopié la pochette de ce 45 tours lorsque Michel Legrand avait fait un concert donc dans ce merveilleux festival de musique de film, défunt festival de musique de film à Auxerre, très beau concert symphonique, très beau moment, Michel tutoyant les anges, et j'avais photocopié en plusieurs exemplaires, donc en couleur, la pochette de ce 45 tours. Et j'avais donné, comme ça, il y avait par exemple quelqu'un, un garçon de l'organisation du festival qui était venu avec sa petite fille, qui voulait absolument voir le compositeur de Peau d'Âne. Et je dis à la petite qui avait 4 ans, je lui dis, dis-moi, tu vas voir le monsieur qui a fait le concert, tu lui fais signer ça. Donc la petite va avec une photocopie d'Oum le Dauphin du 45 tours. Fait, oui, bonjour monsieur. Alors, le grand monsieur, oh, comme c'est gentil, oui, bien sûr. Alors lui signe, etc.
Ah, oui.
Je vois le garçon qui est le fils par exemple d'une fille qui travaille dans le festival, je dis tu peux aller voir le monsieur. Donc le grand s'est retrouvé avec 4-5 gosses qui sont venus le voir toutes les 10 minutes avec comment dire des mini posters d'Oum le Dauphin, etc. Et le concert, donc le dîner de clôture se termine après le concert. Le grand s'en va, je vais lui dire au revoir. Je lui dis bon, bah Michel, on se tient au jus, merci encore. Il fait oui, mais tu peux pas savoir, mais c'est fou. Mais c'est quoi? Mais je me suis rendu compte ce soir que Oum le Dauphin est à nouveau une star chez tous les enfants aujourd'hui. Merci mon Galak, si bon,
merci,
si blanc.
Et alors, juste avant de nous quitter, on va parler un petit peu de l'actualité des uns et des autres. Vous le savez, dans une semaine, c'est le grand retour et tout le monde l'attend, des soirées ghetto tiers-monde. Alors, est-ce que ça ressemble un petit peu à la musique de Lazy Flow, mais en plus tropical, on va dire.
Ouais.
Et ça a été au Disquaire l'année dernière, triomphe, et maintenant on arrive à la Lucha Libre, ce magnifique endroit où il y a un ring de catch, où on mixe sur un ring de catch, un ring mexicain. Alors, quel autre endroit aurait été plus approprié que pour Ghetto Tiers-Monde, bien sûr. Alors, vas-y. Déjà, Punchcock Magazine, c'est
moi, j'étais voir ce lieu, j'ai trouvé ça beaucoup plus... C'est un peu plus petit que les Disquaires, mais c'est beaucoup plus beau. Il y a une ambiance, on sent qu'il va se passer des trucs fous là-bas. Donc, pour faire la fête, ça va peut-être être plus n'importe quoi et partir plus en couille.
Alors, on va gâter le coin sur du coupé décalé, bien sûr, du baile funk, du kuduro. Tous ces styles, la cumbia, les nouveaux sons d'Amérique latine et d'Afrique
et des Caraïbes aussi,
et des Caraïbes avec DJ Fritchcock Magazine et moi-même, on va gâter le coin, on va vous faire un peu menear el culo, voilà, bon, ça va être un peu sexuel. Donc rendez-vous la semaine prochaine, samedi de la semaine prochaine, samedi 12 pour Ghetto Tiers-Monde, à partir de 21h
21h à la Lucha Libre,
la Lucha Libre. Et c'est gratuit,
10 rue de la Montagne Sainte-Geneviève,
c'est dans le 5e arrondissement,
métro Maubert, mutualité à ne pas rater, bien sûr. Vous pouvez venir masquer, costumer, peut-être même déguisé en noir. Et alors, il y a vraiment beaucoup d'actualités, on va très vite. La semaine prochaine, c'est bientôt, enfin la semaine suivante, c'est-à-dire la nuit du vendredi 18 au samedi 19.
C'est bientôt Noël.
C'est bientôt Noël. Grandpa Mini Radio Show vous propose une grande nuit de Noël pendant 5 heures de la musique de Noël. Orgie de grelots.
Non-stop.
5 heures de Noël.
Qui se terminera par une overdose de Jingle Bell.
Voilà.
Une heure entière consacrée à ce thème de Noël.
Alors voilà, on va terminer alors de 4 heures à 5 heures du matin pendant cette nuit. Il n'y aura que des versions de Jingle Bells. Préparez-vous. Orgie de grelots, j'espère que vous aimez les sapins et les Pères Noël. D'ailleurs, pendant cette émission, qui aura lieu donc dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19, il y aura la rencontre inédite entre Jésus-Christ et le Père Noël.
Noël.
Alors, ils vont, ils ont sans doute beaucoup de choses à se raconter.
On m'a dit qu'il y avait aussi une rencontre dans la même émission inédite entre Virginie Despentes et Christine Boutin.
Oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est vrai. Donc restez à l'écoute de Radio Campus
Paris. C'est intéressant, oui.
Donc soyez là, on le redit, dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19, avec évidemment Mister O'Brien, DJ Fresh Rock Magazine, moi-même. Il y aura plein d'autres invités, MC Impératrice, Xerac, Adonis aussi sera de retour, le Renard de Croux, le Chevalier de Rinchy, l'homme qui fait les chansons les plus courtes du monde. Il va y avoir vraiment plein de gens, le Oswald Roto, plein de gens d'univers très différents. Voilà, je respire un petit peu. On a fait le tour des promos. Dans deux semaines aussi, une très belle émission avec des enfants. Mais tout de suite, c'est la fin, donc on parle de notre disque chouchou du mois. Et on va parler Zodiac, je pense. Signe du Zodiac.
Ah oui, je pensais que le bateau.
Non. On va pas parler moteur.
Il revient de Saint-Tropez.
Oui, exactement. C'est l'effet Saint-Tropez.
Il prépare une compile sur Saint-Tropez dans la musique de film.
Et non, bah c'est juste avant, pardon, oui. Juste avant Astral Manvaute, bien sûr, on retrouve toutes les collections sorties universelles de Stéphane Le Rouge, évidemment, notre invité. Ouais.
Donc là, il y a trois dernières sorties, une consacrée donc à François de Roubaix, les chansons de François de Roubaix.
Indispensable.
Voilà, donc c'est ce qu'on va entendre maintenant. Après, il y a la musique des félins.
Non, la musique des félins est parue en 2004, mais un peu de nouveauté toujours.
C'est American, c'est
American, c'est John Barry. Pour terminer, un disque sur la collaboration entre Philippe Sard et un metteur en scène, avec lequel Sard a fait trois films intéressants, et, dont une partition absolument fracassante pour un film qui n'a pas marqué l'histoire du cinéma, qui s'appelle Le Choc, film de la rencontre entre Delon et Deneuve, et une grande partition mi-symphonique, mi-jazz fusion, écrite par Sard, avec en soliste le saxophoniste, vous savez, de ce groupe de l'époque, qui s'appelle The Weather Report, Wayne Shorter. Ouais. Voilà, et c'est vraiment, Sard tenait absolument à ce qu'on réédite cette musique. Et dans le premier disque que tu as mentionné, c'est-à-dire De Roubaix, chanson de film, qui est une espèce de parcours de la carrière de Roubaix à travers les chansons qu'il a pu écrire, en utilisant d'ailleurs souvent des comédiens, hein, que ce soit Delon ou De Funès, par exemple, Brigitte Bardot.
Joanna
Szymkus, que j'ai eu la chance, d'ailleurs j'étais très ému d'interviewer pour le livret du CD. Et y a une chanson qui est quasiment la dernière chanson que Roubaix a été écrite, non pas pour le cinéma, mais pour une émission de télévision qui s'appelait Astralement Vôtre, émission dans laquelle Elisabeth Tessier faisait un peu ses prédictions astrologiques. Et Roubaix était très fatigué, il a failli refuser de cette proposition parce qu'il sortait du vieux fusil, il était un peu éreinté, il voulait partir en vacances. Et il a pris trois jours pour écrire les indicatifs d'Astralement Vôtre, incluant une chanson qui restait en partie inédite, qui était en partie utilisée sur un 45 tours sorti à l'époque, une chanson qui s'appelle Prédestination, avec la voix parlée d'Elisabeth Tessier.
Le talk-over d'Elisabeth Tessier.
Et la voix chantée de Roubaix. Et c'est très émouvant parce que c'est une espèce de. Il y a une dimension presque très planante, quelque chose d'astral forcément.
Un peu érotique,
à la fois. Et en même temps, c'est très émouvant parce que c'est quasiment, historiquement, le dernier enregistrement de Roubaix, complètement produit, réalisé, conçu dans son home studio de la rue de Courcelles. Voilà, donc c'est à la fois gentiment kitsch, troublant, et c'est aussi l'adieu quasiment à de Roubaix.
Oh, et c'est évidemment notre disque chouchou du mois. Stéphane Le Rouge, merci beaucoup.
Merci.
C'est pas grave, la semaine prochaine, je serai là à la même heure.
Un grand, grand merci à toi. Et bon, merci DJ Fresh Rock Magazine et Mister O'Brien, évidemment. On se retrouve très bientôt sur l'antenne de Radio Campus Paris 93.9. Et maintenant, c'est le 10 chouchou du mois. J'espère que vous êtes bélier ou verso. Oh non. Non, je rate mon jingle, je le refais. Stop, faut arrêter les conneries.
Numéro 1. Les planètes se mirent et se reflètent dans l'univers. Elles se poursuivent, s'accolent dans une danse nuptiale. Elles se défient et défilent dans une ronde zodiacale.
Les soleils se mêlent dans le même univers. Les ascendants s'accroissent dans les terres, le milieu de ton ciel et le septième dinon et ta part de fortune s'unit à la mienne. Dans la maison 5, tu es né pour moi et je t'attends à 1000 années-lumière de ta prison terrestre, espace-temps.
Still Les demi-coquilles de noix platoniciennes sont ballottées sur l'océan terrestre à la recherche de leur complémentaire moitié.
Le soleil était sur la lune et Neptune était sur Uranus quand tu es Dieu, mon amour.
Rayons vers les douzièmes maisons et condamnent à l'amour volé, à l'amour secret.
Le trigone de feu de ta Vénus flamboie sous mon Mars léonin. Impudique féline, elle tressaille à temps que je vienne la rendre maîtresse des galaxies.
This is a provocation. That is provocation.
It's not a provocation.
Please, you stop now.